Tu es digne que l'on danse devant toi. Tu es digne d'une offrande d'acclamation de la part de ton peuple. Merci Jésus. Merci Seigneur. Te prions de bénir ce temps, de bénir ta parole, de bénir ton peuple. Nous sommes venus pour recevoir quelque chose de ta part. Bénis-nous. Nous avons soif d'être bénis. Bénis ta parole. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen.
Amen.
Alléluia. Bonjour à tout le monde. Je salue tout le monde. Alléluia. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est présent? Voilà. Je voudrais dire merci à mon frère. Amen. Heureusement qu'il a nous a permis d'avoir la joie parce que moi j'étais un peu triste. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis quand même un peu improvisé. Et alors, j'étais un peu triste, mais il a dit, il faut qu'on ait la joie. Alléluia! Moi, j'ai pas besoin d'avoir une invitation en réalité pour venir ici. Et c'est ce que j'ai dit toujours à votre pasteur, dès le moment où tu sais que c'est moi qui prêche à l'ange de l'Éternel, tu peux débarquer même juste deux minutes avant la prédication, je sais que j'aurai un temps de repos. Parce que, il va parler de la part du Seigneur. Vous savez, c'est un ami, vraiment c'est un ami. Et avec sa famille, nous sommes très proches. Alléluia. Je vous ai toujours dit, il faut dans la vie avoir des gens auprès desquels on peut vraiment se sentir soi-même, se sentir à l'aise. Et c'est le cas pour notre pasteur. Je n'ai pas besoin de vous les présenter. Il est pasteur de trois églises. Alléluia. Il est pasteur de la Nouvelle-Jérusalem à Mons, à Leuven. Il est aussi pasteur de l'Arche de l'Éternel à Anvers. Nous pouvons acclamer le pasteur Paulin Kolo-Kabamba. Voilà. Alléluia. Vous savez, quand vous recevez un invité, il faut quand même le présenter. Comme je suis le pasteur de l'église, il fallait que je le présente. C'est pour cette raison que je l'ai présenté. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi pour m'aider à prêcher? Quelqu'un va m'aider à prêcher? Oh, gloire au Seigneur. Je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs de l'église de l'Arche de l'Éternel à Anvers. Dieu nous a permis d'avoir un bon culte ce matin et donc nous venons pour continuer, si vous voulez, ces cultes avec nos bien-aimés frères et sœurs de cette église. Hier, je crois, nous nous sommes rencontrés avec le frère Justin et le frère Guy. Je ne les vois pas. Où est Guy? Hein? Frère Guy? Ah oui, il était avec nous hier à Bruxelles. Pour toutes les personnes qui vont travailler à la convention. Et nous nous sommes exhortés. Amen. Mais cet après-midi, le Seigneur m'a mis ni sur les cœurs, ni le message que j'ai prêché hier. Peut-être j'ai tricherai un peu, ni le message que j'ai prêché cet avant-midi à l'Arche, mais un autre message. Je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir dans le livre des Juges. Juges chapitre 3. Livre des Juges chapitre 3. Est-ce que je peux demander à Marie-Claude de venir ici, s'il vous plaît? Juges chapitre 3, verset 31, juste ce verset. Juges chapitre 3, verset 31. Vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé? Mais je ne vous entends. Après lui, il eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Dites un bon amen. Je tire le thème de ce message de ces seuls versets. Shamgar tua 600 hommes de Philistins avec quoi? Avec un aiguillon à bœuf. Le thème du message, c'est l'aiguillon de Shamgar. Alléluia. Savez-vous ce que ça veut dire qu'un aiguillon à bœuf? Un aiguillon à bœuf, c'est juste un bâton que l'on utilisait à cette époque-là. Un bâton de 2,5 mètres à 3 mètres que l'on utilisait pour faire avancer les bœufs ou pour diriger les bœufs. Ça veut dire un simple bâton. C'est donc avec juste un bâton que cet homme du nom de Shamgar s'est levé pour se battre contre plus de 600 Philistins. Je parle à quelqu'un. Un contre 600. La situation semblait désespérée. Le rapport des forces et d'effectifs était disproportionné. C'est comme si l'issue de la confrontation était connue à l'avance. Et oui, faut être fou. Je parle à quelqu'un. Tout était en défaveur de Shamgar. Ces Philistins qui sont venus s'attaquer à lui ne sont pas venus les mains nues. Ils sont venus probablement armés de toute espèce d'armes blanches ou que sais-je encore. Mais cet homme était seul, juste avec un aiguillon à bœuf. Il n'a pas pris la fuite, il n'a pas reculé, il se levait pour combattre, même si le rapport de force était disproportionné. Alléluia. Mais là, c'est comme ça que la Bible dit, il bâtit 600 hommes des Philistins. Je voudrais d'emblée dire à quelqu'un ce matin, alléluia, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui se trouve actuellement dans une situation où tout semble être contre toi. Tout semble être en ta défaveur. Tout semble indiquer qu'il n'y a aucune chance pour toi de gagner. Les problèmes sont trop compliqués, c'est trop complexe. Je parle à quelqu'un ce matin. Tout semble indiquer que tu vas perdre parce que tes moyens sont faibles et dérisoires. Tes ennemis sont plus nombreux et plus forts. La difficulté est complexe. Je voudrais dire à cette personne qui se retrouve dans cette situation-là, ne baisse pas les bras. Alléluia. Ne baisse pas les bras, ne t'avoue pas vaincu à l'avance, ne fuis pas, ne désespère pas, ne capitule pas, ne cède pas à la panique, ne cède pas à la peur, car tu n'es pas seul, celui qui combat avec toi c'est le Dieu créateur, et ce Dieu-là est le Dieu qui renverse les situations, et ce Dieu-là est le Dieu qui est toujours majoritaire, et ce Dieu-là est le Dieu qui donne toujours la victoire. La Bible dit que la victoire appartient à l'Éternel, notre Dieu. Mais je voudrais te dire que la victoire t'appartient à toi aussi, à condition que tu te battes. Shamgar avait le choix. En voyant débouler cette bande de pillards au-devant de lui, il avait le choix de prendre la fuite ou de capituler. Mais il s'est battu et il a eu la victoire. N'oubliez pas, mes bien-aimés frères et sœurs, les paroles d'Ézéchias lorsque il avait été attaqué par Sennacherib et que la situation semblait désespérée. Il s'est levé, il a parlé à son peuple en disant, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute cette multitude qui est avec lui, car avec lui il y a un bras de chair, mais avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera à combattre et à avoir la victoire. Je voudrais dire que quelle que soit la quantité d'ennemis qui se présentent devant de toi, avec eux, la multitude, les chars et tout ce qu'ils peuvent disposer, c'est juste un bras de chair, mais avec nous est un bras puissant, le bras de l'Éternel, notre Dieu. Alors, je voudrais exhorter quelqu'un cet après-midi, quelle que soit la situation dans laquelle tu t'es trouvé qui semble désespérée, de ne pas baisser les bras, de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à la panique. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin pour lui dire, quelles que soient les évidences qui sont à défaveur, n'admets jamais la défaite tant que tu n'auras pas combattu jusqu'au bout. N'abandonne jamais le combat tant que Dieu ne te l'aura pas fait signifier. Et même, je voudrais vous dire, même quand Dieu te signifie, vous savez, quand on écrivait une lettre, il y avait toujours l'introduction, le développement et la conclusion. C'est-à-dire les salutations, veuillez agréer, chers messieurs, l'expression de ma considération distinguée. Et on signait. Mais même quand on signait une lettre, il y avait toujours ce qu'on appelle un post-scriptum. C'est-à-dire quelque chose qui doit figurer dans la lettre, mais que l'on ajoute après les salutations, c'est-à-dire la conclusion. Même quand Dieu, parfois, t'a signifié la fin de toute chose, qu'il a conclu un épisode de ta vie, tu sais qu'il peut aussi y ajouter un post-scriptum. Ézéchiel, ce Dieu lui a dit, tu y es arrivé à la fin de ta vie, tu vas mourir. Il s'est tourné vers le Seigneur, il a commencé à prier. Il a commencé à prier, Dieu a dit à Ésaïe, rentre parce que je vais ajouter un PS. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y aura un PS, PS post-scriptum, c'est que je t'ajoute 15 années de plus à la durée de ta vie. Dieu, même s'il a conclu, et je continue encore à me battre, et si je peux pleurnicher devant le Seigneur sans baisser les bras, je ne vais pas baisser les bras devant l'ennemi, je ne vais pas baisser les bras devant les complications de quelque nature que ce soit, parce que je sais qu'avec moi est l'Éternel des armées qui m'aidera à combattre. Alléluia! Alors, j'invite quelqu'un cet après-midi à être fortifié dans le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu qui renverse les situations. L'apôtre Paul a écrit aux Philippiens en leur disant, « Je sais que ces choses tourneront à mon avantage. Ces choses tourneront à mon avantage grâce à vos prières et au soutien de l'Esprit de Jésus-Christ. Tant que l'Esprit agit, je sais que les choses peuvent tourner à mon avantage. Même à la toute dernière minute, Dieu peut renverser la situation à mon avantage. Parce qu'il y a le pasteur qui me soutient. Parce qu'il y a les anciens qui prient pour moi. Parce qu'il y a l'Esprit du Seigneur qui travaille au-dedans de moi. Alors j'ai continue, je combats le bon combat, je garde la foi, même si elle semble cette situation désespérée, je sais une chose, mon Dieu renverse les situations, mon Dieu déplace les montagnes, mon Dieu aplanit les montagnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit dans Ésaïe au chapitre 14, vous retiendrez captifs ceux qui vous ont fait captifs. C'est-à-dire, il y aura un retournement de quoi? Des situations. Vous dominerez sur ceux qui vous ont opprimés. J'aime Dieu parce que je sais. Oh, tu peux te moquer de moi aujourd'hui. Tu peux parler du mal de moi aujourd'hui. Tu me vois dans la misère. Tu me vois dans la boue. Tu me vois dans la poussière. Je sais une chose. L'Éternel est le Dieu qui renverse la situation. Il me prendra de la poussière. Il me prendra de la poubelle. Il me fera asseoir avec le grand à sa table. Il y aura un retournement de situation un jour dans ma vie. Alors je ne veux pas baisser les bras, je ne veux pas me décourager, je ne veux pas laisser tomber, je ne veux pas, j'irai jusqu'au bout. Alléluia! Il dit, je sais que toutes ces choses tourneront à mon avantage grâce à vos prières, grâce à la foi que tu vas déployer, grâce parfois à la louange. C'est pourquoi il ne faut pas être triste. Pourquoi être triste? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia! Je n'ai pas de raison d'être triste, parce que mon Père règne. Et tant qu'il règne, et parce qu'il règne toujours, il règnera toujours. Je sais une chose, c'est que même à la dernière minute, il se levera, il me sera favorable. Alors, grâce à la foi, grâce à ta persévérance, grâce à la prière, grâce à la louange, je sais que mon Dieu, alléluia, retournera la situation à mon avantage. C'est pourquoi je voudrais te dire, n'abandonne pas le combat. Ne tremble pas devant l'ennemi, combat jusqu'au bout. Revenons à notre texte. Et je vous donne l'arrière-contexte du livre des Juges. Comme vous le savez, le livre des Juges raconte un certain nombre d'événements qui se sont passés dans la vie du peuple d'Israël après la mort de Josué et de tous les anciens qui lui avaient survécu. Écoutez, je voudrais qu'on lise ce passage ensemble dans Juges chapitre 2. Juges chapitre 2, à partir du verset 7. Le peuple, écoutez-moi bien. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage. À Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Écoutez maintenant, toute cette génération, c'est-à-dire la génération de Josué et des anciens qui avaient vécu en son temps, fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après cette génération une autre qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Amen. Ce livre sur lequel nous sommes en train de nous entretenir nous dit quelque chose de fondamental. La Bible nous dit que du temps de Josué et des anciens qui ont vécu avec lui, le peuple d'Israël a servi Dieu. Le peuple d'Israël s'est attaché à Dieu. Mais quand cette génération est passée, la Bible dit qu'il s'éleva une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Une génération qui a abandonné Dieu. Une génération qui a fait des choses qui déplaisaient à Dieu. Il s'est élevé après Josué et les anciens qui avaient survécu à Josué. Une autre génération, celle qui est allée se prosterner devant Baal, devant les Astartés. Bref, une génération qui continuellement irritait, suscitait la colère de Dieu. C'est ainsi que Dieu les livrait à leurs ennemis. Ils passaient par le pillage, l'opprobre, la honte. Et quand au comble de la désolation, ils criaient vers Dieu, Dieu leur suscitait un juge qui les délivrait de la main de leurs oppresseurs. Laissez-moi nous dire deux, trois choses à ce niveau-là. Vous voyez, la Bible nous dit que pendant le temps où Josué a été parmi le peuple d'Israël, où les anciens qui étaient avec Josué n'étaient pas encore morts, le peuple s'est attaché à servir Dieu. Mais après, le peuple est allé après d'autres dieux. Ça veut dire quoi? Première chose, Josué et les anciens de leur temps étaient des hommes d'influence. Ils avaient une influence positive sur le peuple. Je parle à quelqu'un. Ils avaient une influence positive sur le peuple. À cause de leur présence, à cause des enseignements qu'ils donnaient, à cause de leur témoignage, le peuple peuple n'avait Dieu braqué que sur le Dieu d'Israël. Le peuple n'avait que faim et soif de servir et de chercher le véritable Dieu. Oh, je prie qu'il y ait dans cette église de Mons une génération d'hommes influents, une génération de femmes influentes qui peuvent communiquer le goût de la prière, qui peuvent communiquer le goût de la sanctification, de la crainte de Dieu, en sorte qu'un jour, lorsqu'ils ne seront plus dans cette église, on dise, oh, quand ils étaient encore là. Je voudrais savoir, mon frère, ma sœur, quel genre d'influence exerces-tu sur le peuple de cette église? Est-ce qu'il s'agit d'une influence positive ou bien d'une influence négative? Josué de son temps a emmené le peuple à se tourner vers Dieu, à servir Dieu, à s'attacher à Dieu, à avoir la faim et la soif de Dieu, de chercher le véritable Dieu. Et pendant tout le temps de sa vie, le peuple s'est tourné vers le véritable Dieu. C'est ce qu'on appelle un homme d'influence positive. Ce qui me chagrine aujourd'hui dans nos églises, nous avons beaucoup d'hommes et de femmes qui ont une influence négative. Quand les autres veulent s'impliquer, ils vous disent « Mais pourquoi ?» Quand les autres veulent donner, ils vous disent « Mais pourquoi ?» Quand les autres veulent servir, ils les découragent. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ont une influence positive. C'est pourquoi Jésus pouvait dire « Vous êtes le sel de la terre. Le sel ne reçoit jamais de goût. Le sel communique le goût. Le sel communique le goût. Le sel arrête la putréfaction et la décomposition. Quand le sel est là, la décomposition s'arrête. Le sel donne l'influence. Nous avons besoin d'hommes qui soient suffisamment salés. Nous avons besoin de femmes qui soient suffisamment salées pour communiquer au monde le goût des choses de Dieu, le goût de la prière, le goût de la sanctification, le goût de la crainte de Dieu, en sorte que pendant, oh non, s'ils sont là, même des choses qui pouvaient se passer ne se passent pas à cause de leur présence. Si quelque part où on parle du mal des gens, tu arrives et on continue à parler du mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu n'as aucune influence. Quand tu arrives là, les gens doivent dire, attention, il est là, il est là. Ils arrêtent. Parce qu'ils savent que tu ne vas pas partager ce qu'ils sont en train de dire. Tu ne vas pas les appuyer. Tu vas au contraire leur montrer la vérité. Tu vas au contraire leur montrer la lumière. Nous avons besoin des hommes qui soient la lumière du monde. En sorte que même dans les ténèbres les plus épaisses du temps présent, ils brillent comme des flambeaux. Pour qu'on voie leur lumière et que cette lumière les conduise au sauveur de leurs âmes. Des hommes d'influence, on en a besoin. Même quand l'église ne veut pas faire telle chose, quand ils arrivent, ils parlent, l'église se mobilise. Parce que ce ne sont pas des gens qui font le ministère de découragement, mais ils font le ministère d'encouragement, de réconciliation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Du temps de Josué, la Bible nous dit du temps de Josué, des anciens qui lui ont survécu. Et après? Après voilà, c'est comme s'il y a un boulevard tout tracé, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de garde-fous. Plus à Dieu qu'il y ait des hommes et des femmes dans cette église qui soient des garde-fous de leurs frères, qui soient les gardiens, les sentinelles, que nous soyons sentinelles les uns des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que nous ayons une influence positive à communiquer. Je voudrais qu'un jour les gens sentent le besoin de prier parce qu'ils sentent que je suis un homme de prière. Je voudrais communiquer le goût de la lecture de la parole de Dieu à quelqu'un. Je voudrais communiquer le goût de passer le temps dans l'intimité avec Dieu. Je voudrais influencer la vie de quelqu'un. Je voudrais être celle de la terre, lumière du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? En sorte que tant que je serai encore vivant, que les hommes se tournent vers le véritable Dieu. Quelle trace vas-tu laisser? Quelle empreinte vas-tu laisser? Oh, ses frères, oh là là, c'était celui qui nous décourageait. Oh, je voudrais qu'un jour, quand tu ne seras plus là, on dise, ce frère nous manque. Cette sœur nous manque en positif. Mais si on dit, Seigneur, merci. Merci de l'avoir éloigné de nous. Je parle à quelqu'un. Je refuse que dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans mes relations, on dise un jour, Seigneur, merci qu'il soit parti.
troisième chose, la Bible nous dit que les enfants d'Israël n'ont pas cessé d'irriter Dieu.
Oh, mes frères et sœurs, je vais y arriver. Pour avoir une influence dans la vie des autres, je l'ai dit, premièrement, il faut être sel de la terre. Deuxièmement, vous devez être un modèle. Hello! La Bible dit, sois un modèle. Pour influencer les autres, tu ne peux pas les influencer si tu n'es pas un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, en sainteté. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4. Sois un modèle en amour, sois un modèle en parole, sois un modèle en sainteté, sois un modèle dans la foi. Parce que quand les gens verront cela, ils seront influencés positivement.
Vous savez, la peur se communique. Les découragements se transmettent très facilement. Quand on est allé visiter le pays de la promesse, et les autres disent, on n'y entrera jamais. Et c'est comme ça qu'ils ont emmené la peur dans tout le peuple. Et le peuple a dû tourner des années dans le désert jusqu'à ce que la première génération disparaisse.
Alléluia. Mais j'aime des hommes comme Josué et Caleb. La Bible dit que c'était des hommes animés d'un autre esprit. Même si la multitude est dans l'erreur et essaie de m'influencer, je suis le sel de la terre. Je garde le cap. Je garde la foi en Dieu. Même si l'ensemble du peuple pleurniche et dit nous n'y entrerons jamais, je me leverai, je dirai avec l'Éternel nous y entrerons. Avec l'Éternel je franchirai une muraille. Avec l'Éternel j'accomplirai des exploits. Je garderai le cap parce que je sais que mon Dieu est le Dieu de la majorité.
Est-ce que tu es un modèle? Si tu es un homme marié, tu dois être un modèle pour les jeunes gens qui doivent se marier dans l'église. Parce qu'ils voient comment tu traites ton épouse. Comment tu l'aimes? Comment tu lui exprimes l'amour? Comment tu l'honores?
Alléluia!
Alors tu vas voir, les gens vont venir. Ah oui, nous aimerions que tu parraines notre mariage. Parce qu'ils voient.
J'ai dit à l'église, n'allez pas choisir des gens simplement parce qu'ils sont peut-être très riches, parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont ça. Il faut qu'ils soient des modèles. On ne peut donner que ce qu'on a. Je parle à quelqu'un. Alléluia.
Est-ce que tu es un modèle dans ton foyer? Est-ce que tu es un modèle dans le ministère où on t'a établi? Et comment d'autres peuvent-ils avoir le goût de servir Dieu? Si les anciens, les diacres, les évangélistes, les pasteurs qui sont établis dans l'église ne sont pas des modèles.
Même les païens diront, ça sert à quoi d'aller à l'église pour devenir comme vos pasteurs? Je refuse qu'on dise une pareille chose sur moi. Je veux que les gens voient la différence. Que les gens comprennent que mon cœur a été gagné par Jésus-Christ. Qu'en moi, il y a quelque chose d'autre qui vibre que les choses du monde pour que ces gens se tournent vers Dieu.
Je prie qu'il y ait des hommes qui influencent les autres bien dans cette église.
Alléluia.
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 Ce matin, j'ai prêché à l'église, j'ai dit, écoutez, j'ai lancé un petit défi à l'église, j'ai dit, tous les pasteurs maintenant sont à l'heure de l'iPad. Alors je voudrais un iPad, je sais qu'il est déjà acheté. Parce qu'il y a 2-3 qui vont aller influencer, 3-4 qui vont me l'acheter. J'aime des gens comme ça.
Est-ce que je parle à quelqu'un?
Du temps de Josué, c'était comme ça. Franchement, quand tu es un homme qui exerce une influence positive, tu ne peux pas. Vous savez, c'est ce qui m'étonne. Un jour, Paul a écrit aux Galates, il dit, qui vous a ensorcelé? Vous couriez bien? Qui vous a arrêté? Qui vous a empêché de continuer la course? Il dit, cette influence ne vient pas de Dieu. Il faut que dans l'église, les chrétiens arrivent à discerner l'influence qui vient de Dieu de l'influence qui ne vient pas de Dieu.
Je parle à quelqu'un.
Si quelqu'un vient à l'église et commence à te parler de ne pas donner ta dîme ou ton offrande, de ne pas servir avec assiduité, de ne pas honorer ton pasteur, de ne pas respecter les anciens et les diacres, et il faut tout de suite que tu l'arrêtes pour lui dire, cette influence ne vient pas de Dieu. Laisse-moi courir ma course, parce que de cette course dépend la couronne qui m'attend à la ligne d'arrivée. De cette course dépend la bénédiction que l'Éternel m'a réservée. Je discerne tout de suite que cette influence n'est pas de Dieu. Je dis à l'église, je vais à Aldi dans le même Aldi que vous. Je vais dans le même carrefour que vous, mais je ne suis pas comme vous. Je suis le gardien de vos âmes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Cet homme n'est pas comme vous. Vous pouvez même le toucher, mais il n'est pas comme vous. C'est le gardien de vos âmes. Alors si quelqu'un vient pour te dire, pourquoi on doit lui obéir? Dis-lui, mon frère, cette influence ne vient pas de Dieu. Je dois honorer celui que Dieu a établi au-devant de moi, parce que ma bénédiction dépend également de cela. Non, vous n'avez pas dit un bon amen. Vous n'avez pas dit un bon amen. Alléluia. La Bible dit que les enfants d'Israël, ah merci frère, n'arrêtaient pas de susciter la colère de Dieu. Et Dieu faisait quoi? Écoutez, on ne se moque pas de Dieu. Dieu est lent à la colère. Mais si nous persévérons dans le mal, nous endurcissons nos cœurs même quand il nous parle, tôt ou tard, nous allons récolter les conséquences de notre rébellion et de notre désobéissance. On ne se moque pas de Dieu, frère. Il faut que tu aies la crainte de Dieu. C'est Dieu-là, c'est lui qui tient le souffle de vie que tu as. Tout ce que tu es, tout ce que tu as vient de lui. Si Dieu décide aujourd'hui que tout te manque, tout va te manquer. Job a tout perdu en très peu de temps, toute la richesse qu'il avait, la richesse que toi d'ailleurs tu n'as pas. On ne se moque pas de Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour blaguer. Nous venons à l'église pour que la parole de Dieu nous change, nous transforme. Pour que la parole de Dieu entre en nous et que nous reflétions la gloire de Dieu. Mais si nous nous endurcissons dans le mal, nous allons récolter les conséquences de nos actes. Et c'était comme ça en Israël. Dieu les livrait. Ils passaient par les pillages, ils passaient par l'opprobre. Il passait par la souffrance, et puis au comble, il criait vers Dieu, il criait vers Dieu, il se repentait, il pleurait. Et au temps de juge, Dieu suscitait quelqu'un qu'on appelait un libérateur. Voyez, ce que je voudrais dire, avant de revenir à notre texte, c'est que même quand nous avons été loin dans le mal, si nous sommes sincères en revenant auprès du Seigneur, nous nous repentons. Il a dit, revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Même si vous êtes allé trop loin, vous êtes là, vous êtes allé trop loin dans le mal, le cœur de Dieu est prêt à t'accueillir si tu reviens. Et si tu reviens sincèrement, si tu te réponds sincèrement, alors il pourra dire ce qu'il a dit dans les livres d'Ésaïe au chapitre 57, j'ai vu ses voies, je le guérirai, je lui servirai de guide et je mettrai un chant nouveau sur ses lèvres. Parce que j'ai vu comment il est revenu de mauvaises voies et que maintenant il marche dans la voie qui plaît à mon cœur. Et la Bible nous dit, il eut Shamgar. Après lui, ici, en réalité remplace, fait allusion au juge, au dernier juge qui avait précédé Shamgar. Ce juge, c'est Ehud. Et si vous regardez bien, avant Ehud, il y avait Othniel. Suivez-moi, parce que c'est maintenant que je prêche. Tout ce que je vous ai dit là, c'était entre parenthèses. Alléluia. Quand vous regardez la vie de ces deux juges qui ont précédé Othniel, c'est-à-dire Ehud et Othniel, qui ont précédé Shamgar, vous allez voir que ces deux-là, c'était des chefs militaires. Alléluia. C'était des chefs militaires, des gens qui étaient rodés, rompus aux techniques militaires de guerre. Et Dieu les avait suscités, l'un comme l'autre, pour donner la victoire à Israël. Maintenant, nous arrivons à Shamgar. Samgar n'était ni un héros, ni un chef militaire, ni un notable dans la vie du peuple d'Israël. Ce n'était qu'un simple, un modeste fermier, un simple agriculteur qui s'était engagé à défendre sa parcelle de terre contre toute forme d'agression. Il parle à quelqu'un? Un simple cultivateur. Mais voyez ce que la Bible dit de lui à la fin du verset 31. La Bible dit, et lui aussi, frère, sœur, lui aussi, toi aussi, moi aussi, je voudrais dire à quelqu'un, toi aussi, même si tu n'es pas dans la famille des illustres, même si tu n'as pas toutes les qualifications, Dieu ne t'exclut pas, de faire figurer ton nom sur la liste des héros. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, toi aussi, moi aussi, alléluia, même si tu n'es pas un héros national. Même si tu n'es pas un chef militaire, même si tu n'es pas une star adulée, même si tu n'es pas un scientifique de génie, Dieu peut se servir de toi pour emmener de grandes victoires, pour accomplir de grands exploits. Si l'Esprit de Dieu est sur toi, si tu marches selon l'Esprit de Dieu, même si ton nom n'est pas connu, même si ta famille n'est pas illustre, Dieu se servira de toi et ton nom figurera dans les annales de la ville de Mons. À cause des exploits que tu auras accomplis, non pas par toi-même, mais parce que Dieu s'est servi de toi. Comment un simple cultivateur va-t-il figurer sur la liste des grands héros, des chefs militaires? Voyez, comme je disais hier à Bruxelles, la plupart d'entre nous, nous ne disons pas « moi aussi » parce que nous avons l'esprit d'antilope d'Afrique. Je vais vous choquer. Vous savez ce que c'est qu'une antilope d'Afrique? L'antilope d'Afrique, c'est cet animal-là, hein, peut sauter 6 à 7 mètres de hauteur. Mais quand vous construisez autour de l'antilope d'Afrique une petite haie, une petite clôture de 1 mètre et demi, c'est fini. Pour elle, c'est fini. Elle ne peut plus sortir. Pourtant, elle peut sauter jusqu'à 6 mètres. Je parle à quelqu'un. Mais quand elle est dans un enclos 1 mètre et demi, il y a beaucoup de chrétiens qui sont, le diable a construit des murets, des petites murailles, et elles sont là en train de pleurer. Je ne peux pas, je ne m'en sortirai pas. Puise tes ressources dans l'Éternel des armées. Parce qu'il a dit, avec Dieu, je franchirai une muraille. Avec l'Esprit de Dieu qui agit en moi, je sauterai. Si l'ennemi, je refuse d'être une antilope d'Afrique. Si le diable construit une muraille de 1,5 mètre, c'est que je sauterai à 3 mètres. Si le diable construit une muraille de 10 mètres, c'est que je sauterai à 15 mètres. Parce que la Bible déclare que je suis plus que vainqueur. Alors je ne vais pas pleurnicher. Oh, il y a des gens qui pleurnichent même pour des tout petits problèmes. C'est une muraille de 1 centimètre, mais il est là-dedans. Et le voilà, il tourne 1 centimètre. Parce qu'il a l'esprit d'antilope d'Afrique. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais choquer quelqu'un. Tu viens d'Afrique, c'est pourquoi tu as l'esprit d'antilope d'Afrique. Refuse cela, dis amen. Refuse cela, alléluia. Refuse cela, alléluia. Le Seigneur dit, avec Dieu je franchis une muraille. Alors je dis à Satan, tu construis une muraille devant moi, je la franchirai. Je la sauterai. Il ne s'agit même pas de l'écrouler, il ne s'agit même pas de creuser un tunnel, mais de sauter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'Esprit de l'Éternel agit sur moi. Car ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par tes capacités, ce n'est ni par ta richesse, ce n'est ni par ta beauté, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je sauterai des murailles. Alors, je refuse d'avoir l'esprit d'antilope d'Afrique. Yeah, alléluia, alléluia. Je sens que l'esprit de quelqu'un est en train de changer là. Pourquoi tu as battu, tu pleures? C'est juste une petite clôture qui est devant toi.
Nous avons besoin d'hommes et de femmes capables de relever les défis. Vous voyez?
Ah, mes frères.
Vous voyez pourquoi David est allé devant Goliath?
Il n'avait pas l'esprit d'antilope d'Afrique.
Tous les autres avaient cet esprit. Dès qu'il voyait les géants, il dit, c'est impossible. Et pourtant, l'antilope a des ressources. Elle peut sauter.
Je vous dis ces choses parce que moi, j'ai grandi au village. Moi, je ne suis pas citadin, je n'ai pas grandi en ville, tout ça. Je suis villageois, je me sens bien d'être villageois d'ailleurs.
On allait faire la chasse des antilopes. Parfois, vous mettez le filet, hein, vous poussez, vous voyez tout d'un coup, jump, de l'autre côté, parti. Parce que ça peut sauter, mais quand vous l'attrapez, vous construisez une petite haie, ok? C'est fini, vous n'avez pas besoin de surveiller, c'est fini. 1,5 mètre.
Je parle à quelqu'un.
Il suffit qu'elle recule, qu'elle prenne un peu d'élan, sans effort, elle saute. Mais elle a construit une muraille dans sa tête. Le problème pour la plupart des chrétiens, c'est que les murailles, c'est pas ce qui se trouve en face de nous, c'est ce que nous avons construit et érigé dans notre esprit, dans nos cœurs, dans nos pensées. Je ne peux pas, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Le Seigneur te dit, tu peux aller loin, parce que quand je te toucherai, tu parleras. Quand je te toucherai, tu ne seras plus un enfant. Quand je te toucherai, tu ne seras plus le même. Quand je te toucherai, tu sauteras plus haut.
Brise d'abord la barrière que tu as érigée dans ton esprit.
Dis, je puis tout par celui qui me fortifie.
Ah non, vous ne le dites pas avec conviction, Bandeko. Dites avec conviction.
Dis, je puis tout par celui qui me fortifie.
Alors regardez, hein. Quand Goliath avance devant David, la Bible dit que Goliath avait son porteur d'armes. Le porteur d'armes passait devant. Il avait le bouclier. Goliath suivait derrière. Goliath, avec fierté, il venait là. Il parlait. David a pris juste quelques cailloux. Vous connaissez l'histoire. Alléluia.
Quand il a visé la tête de Goliath, écoutez-moi bien. Quand David a visé la tête de Goliath, les porteur d'armes de Goliath n'avait pas encore donné le bouclier à Goliath. Vous me suivez? Ça a une leçon fondamentale. Dans l'église, nous avons deux types de gens qui vont en guerre. Les porteurs d'armes et les combattants. Les porteurs d'armes ne combattent pas. Hey, pasteur, voilà l'arme, maintenant combat. Lui, il ne prie pas. Quand il a un problème, pasteur, voilà. Maman présidente, voilà. Mais attends, avant que tu ne transfères le bouclier à celui qui va combattre, l'ennemi peut viser en ce moment-là. Dieu ne cherche pas des porteurs d'armes, Dieu cherche des combattants. Des hommes et des femmes qui ont leur bouclier en main. Des hommes et des femmes qui ont pris toutes les armes de Dieu, qui ne les font pas porter par d'autres, mais qui s'avancent sur le champ de bataille avec les armes à la main.
Alors regardez, quand les cailloux touchent Goliath ici, normalement quand un impact te touche par là, tu vas tomber comment? À la renverse. Mais Goliath est tombé face contre terre. C'est impossible.
Celui qui a fait la physique des impacts, comme moi, peut vous dire que c'est impossible. Mais qu'est-ce que Dieu, écoutez-moi bien, Dieu voulait dire à David dans cette histoire, je suis avec toi. C'est comme si Dieu était derrière Goliath pour lui dire, allez! Est-ce que je parle avec quelqu'un? C'est pour te dire que quand tu es dans le combat spirituel, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a toi devant l'ennemi, devant toi, mais il y a Dieu derrière l'ennemi. En fait, il est encerclé. En fait, le diable est encerclé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut simplement que toi, tu lances le caillou. Le caillou le touche, là, et Dieu dit, allez! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est pour dire que Dieu est capable de faire des choses contrairement à ce que l'homme pense. Tu t'attends à ce que ça tombe à gauche, mais avec Dieu, ça tombe à droite. Tu t'attends à ce que la victoire vienne de là, mais la victoire vient de l'autre côté. Mais tu
si tu n'as pas compris que Dieu peut bénir de mille et une façons, tu seras toujours en train de pleurnicher parce que tu regardes par où la solution doit venir, mais elle ne vient pas de là, pas forcément de là, elle ne viendra pas forcément de là. Il est le Dieu qui sort des sentiers battus, il est le Dieu qui innove, il est le Dieu qui crée, il peut appeler même ce qui n'existe pas à l'existence pour te secourir. Alors ne sois pas abattu, alors ne sois pas découragé. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alléluia. Shamgar n'était pas un chef militaire. Mais il est devenu le libérateur d'Israël. Tu n'es pas obligé d'avoir les titres de pasteur pour amener des âmes à Jésus. Non. Même si tu n'es pas ancien, tu n'es pas diacre, tu n'es pas diaconesse, toi aussi, il faut que tu dises « moi aussi ». Ah, la Bible dit « lui aussi ». Toi aussi. Alléluia. Tu peux conduire tes âmes à Jésus. Toi aussi. Même si tu n'as pas tous les qualificatifs, les diplômes ou les titres qu'exige bien souvent la société actuelle, Dieu ne t'exclut pas de la liste des héros. Dieu ne t'exclut pas de la liste des gagnants. Cesse de te déconsidérer. Cesse de te comporter en antilope d'Afrique. Oh, je puise mes ressources dans la puissance du Saint-Esprit qui agit infiniment au-delà de ce que je peux penser, de ce que je peux imaginer. Je puise ma force dans la certitude que j'ai que l'Éternel est avec moi. Car si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alors pourquoi tu es triste comme ça? Tu trembles, tu paniques parce qu'il y a un problème qui est devant toi. Tu as capitulé, tu as même accepté cette situation et tu te dis je vivrai avec ça jusqu'au bout. Mais comment? C'est une petite clôture, saute, saute! Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je ne veux pas rester parce que j'ai les ressources pour sauter. Toi aussi, dis moi aussi. Dis bien moi aussi. Alléluia! 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 Cesse de te déconsidérer. La Bible dit, il eut Shamgar. Comme nous l'avons dit, Shamgar, ce n'était qu'un simple fermier, d'accord? Il possédait un champ. Quelques hectares de terre où il avait ses bœufs. C'est comme ça qu'il avait un aiguillon à bœufs pour les diriger, pour les canaliser. La Bible nous dit qu'à cette époque, des bandes organisées des Philistins attaquaient tous ceux qu'ils rencontraient, ravageaient tous les champs qu'ils voyaient, pillaient tout ce qui était pillable. Les gens avaient même peur d'emprunter les routes principales des peurs de rencontrer des bandes de Philistins parce qu'alors systématiquement ils étaient pillés, rossés ou même mis à mort. C'est pas moi qui l'ai dit. Regardez, je vous montre la référence dans les livres de Juges au chapitre 5. Juges chapitre 5, verset 6. Juges 5, 6, la Bible dit au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, écoutez, les routes étaient... Et ceux qui voyageaient prenaient quoi? Des chemins détournés. Vous comprenez ça? C'est-à-dire c'était un temps difficile, une époque terrible. Tout le monde avait peur de ces Philistins organisés en bande. Vous m'entendez? La nouvelle était connue. Quand les Philistins viennent, ils ne viennent pas à deux ou à trois ou à quatre. Ils viennent en groupe, ils viennent en bande. Ce qui fait que les gens, quand ils voyageaient, ils prenaient les petites routes nationales, les sentiers pour ne pas rencontrer les Philistins. Voilà qu'un jour, Shamgar est dans son champ, en train de conduire ses bœufs avec son aiguillon. Et il entend... C'est une bande de Philistins qui déboule devant lui. Vous savez, quand les voyous vous attaquent, ils vous attaquent, ils vous intimident déjà avec le chant. Vrai ou faux? Le chant simplement te dit, laisse tout, taille-toi, casse-toi, laisse tout. Et Shamgar les regarde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu étais dans la situation de Shamgar, alléluia, alléluia, Florence, si tu étais dans la situation, hein, Eric, dans la situation de Shamgar, tu allais faire quoi? Franchement, moi je ne sais pas. Pour être honnête avec vous, alléluia, Shamgar les regarde. Que faire? Fuir? Il dit non. Je ne vais pas fuir. Vous savez, il y a des situations, écoutez-moi bien. Quand vous fuyez devant l'ennemi, il va vous planter une flèche dans le dos. Mieux vaut mourir avec une flèche dans la poitrine qu'une flèche dans le dos. Une flèche dans la poitrine, ça veut dire vous avez fait face à l'ennemi. Vous mourrez avec les honneurs. Une flèche dans le dos, ça veut dire vous avez fui l'ennemi. Vous mourrez avec le propre. Shamgar, il dit, fuis. Non. Il regarde autour de lui. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Rien. Rien que un simple bâton. C'est dérisoire. C'est vraiment dérisoire comme arme pour combattre une horde de plus de 600 Philistins. La plupart du temps, nous sommes vaincus parce que nous regardons à l'armement que nous disposons. Parce que nous regardons aux moyens que nous disposons. Celui-là Shamgar n'avait qu'un bâton. Je parle à quelqu'un. Il faut que la parole de Dieu qui dit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dites Amen. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est-à-dire, tu regardes aux moyens que tu disposes et tu dis, c'est peut-être dérisoire, mais je sais une chose. Dieu utilise les choses simples. Parce que Dieu et moi, nous sommes la majorité. La victoire n'appartient pas à celui qui monte le char ou les cavaliers. La victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est pas dans la multitude que se trouve la victoire. La victoire appartient à l'Éternel. Ceux-là s'appuient sur leur char. Ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Shamgar n'a qu'un bâton. Il n'a qu'un bâton. Il dit, je ne fuis pas. Alors là, Shamgar, le voilà, il les affronte. Je crois que les Philistins eux-mêmes se sont dit, mais ce gars est un malade. Il n'a pas peur. Il ne tremble pas, il ne panique pas, il ne fuit pas. Alors il lance encore d'autres cris de guerre. Yeah! Il fonce. Je parle à quelqu'un. Shamgar se tient avec le bâton. Maintenant, tous les bœufs ont fui. Il est dans un champ où il n'est que face à 600 Philistins. Alors, il frappe là-bas. Il en tue 600. Les autres constatent que la cause est perdue. Et parle à quelqu'un. Les moyens que tu as peuvent être dérisoires. Écoute-moi bien, la victoire appartient à l'Éternel, ton Dieu. Devant quelque situation que ce soit, ne fuis pas, n'abandonne pas, ne t'avoue pas vaincu. En fait, tu n'es vaincu que quand tu as décidé que tu es vaincu. Et c'est comme ça que la Bible dit, lui aussi fut un libérateur d'Israël. Alléluia. Regardez mes bien-aimés frères et sœurs. Le rapport de force était disproportionné. Vrai ou faux? Mais Shamgar, lui aussi, est devenu héros national en Israël pour avoir combattu juste avec un bâton. Quand Jésus a voulu multiplier le pain, un de ses disciples a dit, l'heure est avancée, nous sommes au milieu des airs. Un autre est venu dire, je vois un petit garçon qui a quelques pains ici, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, ça ne vaut pas la peine. Jésus a pris ce qui était considéré comme dérisoire. Il a béni, il a rendu grâce et il a dit distribuer. Et il y a eu la multiplication pour nourrir plus de 20 000 personnes. On parle des 5 000 sans compter les femmes et les enfants. C'était sur quelque chose que les autres considéraient comme dérisoire. Il y a des gens à qui Dieu a déjà mis leur aiguillon en main. Ils ont l'aiguillon entre les mains, mais ils considèrent cet aiguillon comme quelque chose de dérisoire pour remporter des grandes victoires. Ils considèrent ce que Dieu a mis dans leurs mains comme insignifiant pour aller en guerre, pour se lancer dans les affaires, pour se lancer dans l'aventure, pour avoir des grands projets, pour combattre des géants qui se tiennent devant eux. Ton aiguillon peut être un don que Dieu t'a donné. C'est avec ça que tu vas faire des grandes victoires. Moi, je suis étonné aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur, même des gens qui ont le don de chanter, simplement chanter. Ils veulent devenir pasteur, mais ça ne marche pas. Alors qu'avec leur don de chanter, là, ils peuvent aller loin, être connus dans le monde entier, plus que même que les pasteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin, cet après-midi, qu'il a son aiguillon entre ses mains? Il y a des textes dans Juges où on nous dit, par exemple, Samson a tué plusieurs, des milliers de Philistins avec juste une mâchoire d'âne. Ok? David a tué Goliath juste avec un petit caillou. Pourquoi la plupart du temps, quand nous regardons ce que nous avons, nous pleurnichons, nous désespérons, nous disons, c'est pas avec ça que je peux aller loin. C'est pas avec ça que je peux réussir. Mais pourtant, c'est ça ton aiguillon. Alléluia. C'est ça ton aiguillon. Vous croyez, si l'église de Mons veut acheter un bâtiment, qu'il faut attendre de la part des Américains, l'aiguillon, c'est vous. Est-ce que j'appelle à quelqu'un? C'est vous, ici. Mais la plupart du temps, nous regardons toujours ailleurs, alors que ça se trouve dans nos mains. Je vais bientôt terminer. Et je vais vous donner deux petites révélations dans ce texte. Pour comprendre pourquoi Shamgar n'a pas fui, alléluia, il faut connaître la signification de son nom et la signification du nom de son père. Regardez avec moi. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ce texte dit? Après lui, il eut Shamgar, fils d'Anat. Alléluia. Shamgar veut dire celui qui garde soigneusement. Vous comprenez? Celui qui garde soigneusement. Shamgar, quand il voit la bande de Philistins débouler dans son champ, il dit, vous ne me connaissez pas, mais moi je me connais. Mon père m'a donné le nom de celui qui garde soigneusement ce qui lui appartient. Je ne vais pas vous laisser piller mon héritage parce que je vais le protéger soigneusement. Seigneur, je te bénis de me donner l'occasion de vivre mon nom devant ces Philistins. Parce que c'est aujourd'hui que je vais démontrer que mon père ne s'est pas trompé en me donnant le nom de celui qui garde soigneusement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu vives ton nom. Vous savez, quand nous nous sommes convertis, Dieu nous a donné de nouveaux noms. C'est comme ça que Jésus regarde. C'est facile, il dit, Simon, tu t'appelles Simon. Mais, non, je ne veux plus de ce nom, tu vas t'appeler comment? Cephas, c'est-à-dire Pierre. Simon, ça veut dire roseau, celui qui n'a pas de position précise, qui bascule à gauche, qui bascule à droite. C'est comme ça que, quand Pierre a pris conscience de son nom, Cephas, c'est-à-dire Pierre, Sa vie a changé. Il a dit, je vais vivre mon nom. Et Abraham, on l'a appelé Abraham. Dieu a changé son nom en Abraham. Et Jacob s'appelait le tricheur. Dieu a dit, tu ne vas plus t'appeler tricheur, tu vas t'appeler Israël, le prince de Dieu. Il a vécu en fonction de son nom. Je voudrais dire à quelqu'un que le nom que tu portes, c'est le nom que t'ont donné tes parents biologiques. Mais il y a un autre nom que tu as reçu du Père, un autre nom avec sous base duquel tu dois vivre ta vie. Tu es appelé un gagnant, tu es appelé un héros, tu es appelé un héritier. Vis ton nom. Lorsque l'ennemi viendra au devant de toi pour arracher ce qui t'appartient, tu lui dis, ceci fait partie de mon héritage. Au nom de Jésus-Christ, je ne céderai pas. Je protégerai ma famille, je protégerai mes enfants, je protégerai mon pasteur, je protégerai mon église, parce que Dieu m'a établi sentinelle. Déboulez comme vous voulez, mais moi, Dieu m'a établi pour protéger. Il parle à quelqu'un. Si tu es devenu chrétien, ce n'est pas pour toi-même. Dieu t'a établi sentinelle dans ta famille. Qu'est-ce que tu fais pour protéger ta famille? Pendant que eux ils dorment, toi tu dors. Tu n'as pas compris la mission qui t'a été confiée. Sentinelle. J'ai dit le jour où j'ai changé de quartier, les gens de mon quartier, même s'ils ne me connaissent pas, ils doivent avoir trouvé quelque chose de changé, parce que là je lance des flèches le soir, la nuit, le jour, même si les sorciers pouvaient attaquer ce quartier à cause de quelqu'un qui est là qui dit, je protège le quartier, je protège le quartier, je protège le quartier, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. Alléluia. Tu dois vivre ton nom. Si tu es héritier, ça veut dire que tu dois prendre possession de ton héritage. Alors quand l'ennemi te dit, tu ne passeras pas, tu lui dis, mais comment? Je ne passerai pas, mais attends. Ou bien la muraille que tu as construite, je vais la faire tomber, ou alors je creuse un tunnel, ou alors je saute. Je parle à quelqu'un. Je veux vivre mon nom. Je m'appelle enfant de Dieu. Anath veut dire réponse. Ok? Anath signifie réponse. Alors je vais traduire ce verset pour terminer. Le verset qu'on a lu signifie à peu près ceci. Après lui, il eut Shamgar, fils de réponse. En bon français, on ne va pas dire fils de réponse, mais fils de celui qui donne la réponse. Je parle à quelqu'un. Anath, celui qui donne la... Toi, tu es fils de qui? Tu es fils de l'Anath par excellence. Vous n'avez rien compris. Tu es le fils ou la fille de l'Anath par excellence. Parce que ton Dieu est le Dieu de solutions. Ton Dieu est le Dieu de miracles. Ton Dieu est le Dieu de bénédictions. Je voudrais te dire qu'il y a une solution pour toi, parce que tu es le fils, tu es la fille de celui qui par excellence donne les solutions. Par excellence donne les miracles. Par excellence accorde la bénédiction. C'est comme ça, écoutez-moi bien. Je vais bientôt terminer. Quand Shamgar voit le Philistin venir, il dit, je m'appelle celui qui... protège soigneusement. Et mon père est celui qui donne la réponse. Mon père est celui qui donne la victoire. Mon père est celui qui donne la solution. Alors, même s'il y a un problème là devant moi, vous croyez que je vais fuir alors que je m'appelle celui qui protège et que mon père s'appelle celui qui donne la victoire? Je parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un cet après-midi. Écoute, il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches de qui tu es le fils, de qui tu es la fille. Tu es le fils du Dieu Tout-Puissant. Dites Amen. Tu es le fils de celui qui appelle à l'existence même ce qui n'existe pas. Tu es le fils de celui qui donne la solution même là où il n'y en a pas. Alors, quand les Philistins débouleront désormais devant toi, tu vas leur dire, je vais vivre mon nom et je vais vous démontrer que je suis le fils de celui qui donne la victoire. Je vais vous démontrer que je suis le fils de celui qui donne la guérison. Je me battrai même contre la maladie. Vous savez, parfois certaines maladies, nous les subissons parce que nous les avons acceptées. Nous mourons petit à petit parce qu'on a dit c'est terminé. Moi, mon Dieu est le Dieu qui guérit. Alors je me bats. Je continue à me battre parce que je connais mon Père. Alléluia. Et voilà, quand cet homme a compris qui il était, les Philistins sont venus. Vous comprendrez pourquoi. Il les regarde et puis il n'a pas peur. La plupart du temps, nous ignorons qui nous sommes et qui est notre Père. Et qui est en nous, avec nous et pour nous. Nous ignorons ça. Et à cause de l'incrédulité, ce matin j'ai prêché sur l'incrédulité. C'est à cause de l'incrédulité des habitants de Nazareth que Jésus n'a pas opéré beaucoup de miracles dans la ville de Nazareth. Quand la Bible dit Jésus n'a pas opéré beaucoup de miracles, ça signifie que Jésus a opéré quelques miracles, mais il aurait opéré plus. Il y a un jour quand on arrivera au ciel, Dieu te fait voir et dit regarde, tout ça était à toi. Mais à cause de ton incrédulité, regarde, tout ça. Tu as pleuré sur la terre, tu as gémi, tout ça, tu as gémi, tu as pleuré, tu as même cru que je n'étais pas avec toi. Regarde. Ça va être dramatique. Moi, je ne veux pas que ça soit comme ça. J'arrive au ciel et on me montre une maison que j'aurais, dans laquelle j'aurais vécu sur cette terre. Et tu regardes maintenant la maison là de Kouem où tu es présentement. À Kouem là. Je ne dis pas que Kouem n'a que de mauvaises maisons. C'est un exemple. Pour ne pas te choquer, je vais prendre un exemple de chez moi en Flandre. Alléluia. Et le Seigneur te dit, mais regarde, si tu avais persévéré, si tu avais tenu bon, si tu avais compris qui moi ton père j'étais, regarde la maison dans laquelle tu aurais habité. Regarde les enfants que tu aurais eu. Regarde. Et comment ça te fait voir, franchement, au ciel. Heureusement, Dieu va enlever les pleurs. Parce qu'il n'y aura plus de pleurs. Il y a de quoi pleurer, n'est-ce pas? Et tu dis, j'ai trimé. J'ai galéré. Alors que tout ça était à moi. Mais simplement, parce que tu n'avais pas compris qui tu es et de qui tu es le fils. L'aiguillon de Shamgar, tu as ça entre tes mains. Dieu t'a donné un nom et tu dois vivre ce nom. Ton Dieu s'appelle le Dieu des solutions, attends-toi à des solutions. C'est le Dieu des miracles, attends-toi aux miracles. Les miracles ne sont pas révolus. Les miracles, ce n'est pas une histoire des temps passés. Les miracles, c'est encore aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lève-toi, tiens ferme devant les Philistins, même avec un simple aiguillon, pour que toi aussi tu entres dans l'histoire. Pour que toi aussi tu figures sur la liste des héros. Pour que toi aussi ton nom soit inscrit dans la liste des grands, même si tu n'étais au départ qu'un simple fermier, même si tu n'étais au départ qu'un simple agriculteur, mais qu'au temps opportun, alléluia, ton nom figure parmi les grands, pour que toi aussi tu dises véritablement, il est celui qui prend l'indigent du fumier et qui le fait asseoir avec les grands et qui fait figurer son nom dans la liste des héros. Que Dieu vous bénisse.